Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Chers juristes auditeurs de la voix de l'Indonésie entière, comment allez-vous? À pas kabar, voici l'émission La Française de la voix de l'Indonésie de Jakarta, l'émission de mardi 10 mai. Et nous avons déjà arrangé le programme pour vous, pour vous emmener vos activités ce soir à peu près une heure. Comme d'habitude, notre programme sera commencé avec les informations de la voix de l'Indonésie, qui se compose avec les actualités du jour, et aussi il y a le commentaire, le point de vue, le focus et l'histoire du jour. Et après ça, il y a trois magazines. Le premier, c'est magazine de la culture, suivi avec, comme le mardi, c'est la rubrique de apprendre la langue indonésienne. Et après ça, c'est le magazine de musique. Chers juristes auditeurs de la voix de l'Indonésie entière, n'oubliez pas, vous pouvez aussi écouter notre émission non seulement par en courte sur le fréquent 9525 kHz, mais aussi avec le site internet. Voici notre site internet, la voix de l'Indonésie, www.voi.co.id. Et si vous intéressez notre adresse, voici notre adresse, la voix de l'Indonésie, boîte postale 1157 Jakarta 10011 Indonésie. Ou bien si vous envoyez par le courrier électronique, allez visiter notre site internet www.voi.co.id. Bon, chers juristes auditeurs de la voix de l'Indonésie, c'était le sommaire d'aujourd'hui et maintenant, allez écouter la première, les actualités du jour.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec le titre. L'Union européenne lance le mois d'Europe en Indonésie. L'Indonésie pionnière de l'exportation du bois légal à l'échelle internationale. L'Indonésie et l'Algérie sont d'accord sur le renforcement de la coopération religieuse. L'Indonésie et la Chine ont renforcé les chances d'information de trafic de drogue. Le gouvernement indonésien encourage une coopération plus équilibrée avec la Chine. Le gouvernement indonésien encourage Nahdlatul Ulama d'être le pacificateur dans le Moyen-Orient. La police palestinienne rejoint la formation Cybercrime en Indonésie. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. L'Union européenne a lancé le mois d'Europe en Indonésie. Le lancement visait à commémorer la journée d'Europe le 9 mai, la journée unie des pays européens sous l'Union européenne. L'ambassadeur de l'Union européenne en Indonésie et à Brunei Darussalam, Vincent Guérant, lundi à Jakarta, a dit que tout au long de mai, l'Union européenne organisait une série de festivités pour ajouter les connaissances sur l'Europe et les activités de l'Union européenne en Indonésie. Selon lui, le mois d'Europe apportera les relations plus étroites entre les Européens et les Indonésiens à travers des activités culturelles.
This month of May and the various events we've been organizing are really designed to promote friendship.
La commémoration de ce mois de mai, nous efforçons de promouvoir l'amitié entre les Européens et les Indonésiens de présenter l'histoire de l'Europe à travers la culture. Nous espérons que tous les éléments renforceront les liens d'amitié qui existent entre le public européen et indonésien, surtout la jeunesse. L'ambassadeur Vincent Gerard a expliqué qu'en plus des activités culturelles pour renforcer les relations entre les Européens et les Indonésiens, l'Union européenne va également lancer le Livre bleu 2016. Selon lui, le Livre bleu fournira des apports annuels sur la coopération du développement de l'Union européenne et de l'Indonésie, notamment dans les domaines de l'éducation, le développement de la société civile, la protection des droits de l'homme et le développement durable. L'Indonésie est devenue le premier pays dans le monde qui obtient le schéma de la licence d'application des réglementations forestières, la gouvernance et les essences commerciaux pour toutes les exportations des produits de bois de l'Indonésie vers 28 pays européens. Cette réalisation a été obtenue après avoir travaillé dur pendant 15 ans, de sorte que l'Indonésie est devenue finalement un pionnier de l'exportation de produits de bois légal à l'échelle internationale. L'acquisition de la licence de l'application de réglementation forestière, la gouvernance et les essences commerciaux du secteur forestier de l'Union européenne se reflète dans la déclaration conjointe entre le président Joko Widodo et le président de l'Union européenne, Jean-Claude Juncker, à Bruxelles le 21 avril dernier. La ministre des Forêts et de l'Environnement, Madame Siti Nurbaya Bakar, dans un communiqué de presse, a déclaré lundi, les deux chefs d'État avaient convenu de commencer immédiatement le système d'échange de bois légal pour éradiquer l'exploitation forestière illégale dans le biais de cette licence. Elle a considéré qu'avec le premier schéma de la licence d'application des réglementations forestières, la gouvernance et les essences commerciaux dans le monde, les produits de bois de l'Indonésie n'ont pas besoin de passer par le processus de diligence raisonnable, mais vont directement à travers la ligne verte des douanes des pays de destination. Le gouvernement de l'Indonésie et l'Algérie ont convenu de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans le domaine religieux. Le ministère indonésien des Affaires étrangères, dans le communiqué de presse, a déclaré lundi que l'accord a été conclu lors d'une réunion entre l'ambassadeur d'Indonésie pour l'Algérie, Safira Marusa, et le ministre algérien des Affaires religieuses et des Wakaf, Mohamed Aïssa, au bureau du ministère algérien des Affaires religieuses récemment. L'accord de renforcer la coopération religieuse sera immédiatement suivi par le lancement d'un certain nombre de programmes qui seront mis en œuvre dans un avenir proche. L'ambassadeur d'Indonésie, Safira Mahrusa, a proposé une collaboration sous la forme de l'échange de visites des ulémas pour contrer le radicalisme et le fondamentalisme dans les deux pays. Les chances de visite des ulémas sont proposées parce que l'Algérie et l'Indonésie ont des expériences similaires dans le traitement de la question du terrorisme. Vous écoutez le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta. La République d'Indonésie et la République populaire de Chine renforcent la coopération en matière d'échange d'informations afin d'empêcher la contrebande et la lutte contre le trafic de drogue et les matériaux dangerosité de la drogue. Le chef de l'Agence nationale des stupéfiants, M. Budi Waseso, a déclaré lundi que la coopération par le protocole d'accord pouvait éviter l'entrée d'autres types de médicaments en provenance de Chine. Selon Budi, l'intelligence chinoise continuera de donner des informations à l'Agence nationale des stupéfiants, ou BNN, au sujet de l'envoi de drogue à l'Indonésie. BNN espère le réseau de trafic de drogue vient de l'Indonésie vers la Chine peut être connu pour les deux parties. Le gouvernement indonésien et la Chine ont mené le deuxième sommet du dialogue économique à Jakarta. La délégation indonésienne, présidée par le ministre de la Coordination des Affaires économiques, M. Darmin Nasution. tandis que la délégation chinoise dirigée par le conseiller d'État de Chine, Yang Jieji. À cette occasion, Darmina Sution a dit que le gouvernement indonésien se concentrait sur les relations bilatérales à partir de l'investissement, la coopération de l'infrastructure jusqu'au commerce. Selon lui, au cours des deux dernières années, les statistiques de commerce entre les deux pays ont diminué. Ceci est également suivi par la tendance d'un creusement du déficit commercial en Indonésie. Il a proposé de formuler une analyse et les mesures vers un commerce plus équilibré et durable. Le gouvernement espère Nahdlatul Ulama participe en tant que pacificateur sur les différents conflits dans un certain nombre de pays du Moyen-Orient et jusqu'à présent, c'est lui qui devient le pacificateur entre l'Israël et les Palestiniens selon les États-Unis. Le ministre coordinateur des Affaires politiques, Justice et Sécurité, M. Luhut Binsar Panjaitan, a dit à Jakarta lundi que l'Indonésie pouvait être un pacificateur des conflits internationaux. L'Indonésie doit prendre ce rôle stratégique. Le soutien des ulémas de Nahdlatul Ulama est très important pour l'ordre du jour. 10 membres du personnel de la police palestinienne participent à la formation dans le traitement de la criminalité dans le cyberespace ou cybercriminalité et la criminalistique numérique en Indonésie tenue du 9 au 18 mai 2016. Selon le communiqué de presse de l'ambassade d'Indonésie à Amman en Jordanie, a reçu à Jakarta mardi, la formation est organisée par la direction de la coopération technique du ministère des Affaires étrangères de l'Indonésie en coopération avec l'Institut national de l'éducation de la police indonésienne. La formation dans le traitement de la cybercriminalité et la criminalistique numérique vise à améliorer la capacité des agences de police palestiniennes dans le domaine de la prévention de la criminalité dans le cyberespace et les méthodes d'enquête judiciaire numérique. Cette formation est la suite de la promesse du gouvernement indonésien aux Palestiniens dans le soutien et la préparation de la capacité des ressources humaines, notamment les responsables gouvernementaux. Le chef de l'Institut de l'éducation de la police de la République d'Indonésie, le commissaire général de la police Shafruddin, a déclaré que la police a effectué des coopérations à l'étranger avec les agences de police étrangères. La formation de renforcement des capacités pour la Palestine et les pays du Pacifique Sud fait partie de l'engagement du gouvernement indonésien de continuer à encourager la coopération de développement entre les pays en développement. Chers amis, c'était le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Sixième longtemps, après le journal, maintenant vous pouvez écouter le commentaire et pour le titre, l'Indonésie est d'accord sur la patrouille dans la frontière des trois pays de l'ASEAN. Récemment, l'Indonésie a accordé les activités de patrouille conjointes dans les eaux frontalières des trois pays, à savoir les Philippines et la Malaisie. L'accord s'est reflété dans le premier point de discussion lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères et le commandant en chef des forces armées de l'Indonésie, la Malaisie et les Philippines. Ce qui devient la base de la pensée et les conditions sur le terrain est quelle réponse qui sera faite si quelque chose s'est passé. Dans cette réunion, ils ont également discuté de l'échange rapide d'informations avec la création de centres de crise de permanence téléphonique dans les trois pays. Ce dernier a encore besoin de procédures de standards opérationnels. Cette patrouille conjointe est effectuée par les trois pays afin de protéger leurs citoyens contre la piraterie et la prise d'otages qui a récemment eu lieu dans les eaux philippines. Certains citoyens indonésiens ont été pris en otage par le groupe d'Abu Sayyaf qui est aux Philippines. Pour éviter l'incident de se produire, l'Indonésie, la Malaisie et les Philippines ont convenu de mener des patrouilles conjointes. Cette réunion est en fait un message politique très important des trois pays qui n'est pas seulement destiné à la région sud-est asiatique mais aussi pour le monde. que ces trois pays qui ont été directement touchés par les défis qui se produisent dans la région peuvent immédiatement répondre ensemble. Cette activité fait partie de la création d'un sentiment de sécurité dans la région de l'ASEAN, même après le crime qui a eu lieu dans les zones économiques stratégiques. Cette zone doit être en mesure de créer un sentiment de sécurité, d'avoir un impact sur la confiance dans le commerce. La patrouille conjointe est une forme de la préoccupation de l'Indonésie sur la sécurité dans la région et la forme de la responsabilité dans l'augmentation du commerce et de l'économie de l'ASEAN. Serge Ritter, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 10 mai 1940, l'Allemagne a envahi les Pays-Bas, la Belgique et la France qui a utilisé les tactiques de Blitzkrieg. Blitzkrieg est une stratégie militaire où les forces allemandes ont attaqué rapidement. L'armée allemande a utilisé la combinaison et la coordination des forces de l'air, la mer et la terre. Le concept de la stratégie de Blitzkrieg en général jusqu'à présent est encore appliqué par les militaires. Le 10 mai 1973, la fondation du Polisario. Le Front Polisario est une organisation de libération de la région du Sahara occidental dans le nord de l'Afrique. Cette organisation a pour but de lutter pour l'indépendance de la région du Sahara occidental des colonies espagnoles. Le soutien public pour l'organisation a fait les troupes espagnoles se retirer du Sahara occidental en 1975. La même année, l'Espagne a fait le transfert de pouvoir du Sahara occidental au Maroc et en Mauritanie. Mais en raison d'un certain nombre de pressions externes, la Mauritanie a dit qu'il ne voulait pas accepter le transfert. Le Maroc, qui a accepté le transfert de pouvoir de l'Espagne, a attaqué directement le Sahara occidental. L'attaque a échoué en raison de la résistance du Front Polisario soutenu par le peuple. En 1991, les Nations Unies ont pu arbitrer le conflit entre le Maroc et le Front Polisario et les deux parties ont convenu de faire le référendum pour résoudre le problème du Sahara occidental. Mais le référendum n'a pas eu lieu parce que les deux parties étaient désaccord fortement sur les conditions des participants du référendum. Le 10 mai 1983, 90 membres de la famille Al-Hakim ont été arrêtés. Le régime Ba'ath irakien dirigé par le dictateur Saddam Hussein a arrêté 125 familles de Ayatollah Al-Hakim, ulama le plus influent de l'Irak de son époque. 18 d'entre eux ont été condamnés à mort. Mais la famille Al-Hakim, qui pendant des décennies a été connue comme une famille religieuse, et les combattants portent toujours le leader charismatique très respecté par les Irakiens. Cette situation rend le régime Ba'ath inquiète et menace son pouvoir. À cette fin, Saddam Hussein fait toujours la répression contre la famille Al-Hakim par de terroriser, de détenir et même tuer. Chers amis, c'était l'histoire aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la mise au point intitulée L'Indonésie exporte un navire de guerre aux Philippines. PT PAL Indonésie a exporté un navire de guerre de type stratégique Sea Life Vessel ou SSV aux Philippines, l'ordre du ministère de la Défense des Philippines. Il est le navire multifonction qui peut être utilisé pour la guerre ou des opérations humanitaires. Cette première exportation est un signe que l'Indonésie a immédiatement pris le rôle comme un pays de l'industrie navale dans le monde. Le vice-président Yusuf Kalla, lors de la première exportation de navires de guerre déployés par PT PAL Indonesia aux Philippines, au port de Tanjung Perak, Surabaya, Java Est, a déclaré dimanche qu'aujourd'hui était l'occasion pour l'Indonésie d'être un pays qui peut produire des navires en grande quantité et en bonne qualité. Selon Yusuf Kalla, la possibilité de devenir l'industrie de la construction navale du monde est assez ouverte parce que le centre de l'industrie de navale continue de changer de l'Europe, le Japon, la Corée et potentiellement à l'Indonésie. Yusuf Kalla a apprécié PT PAL Indonesia en tant que des entreprises d'État de navires qui peut finir la commande du gouvernement philippin en temps voulu. Il devient une fierté que l'Indonésie peut exporter un meilleur navire et sophistiqué. La réussite de l'exportation du navire et le succès de PT PAL Indonesia dans la maîtrise de la technologie parce que PT PAL Indonesia est un chantier naval qui existe depuis longtemps dans ce pays. Yusuf Kalla espère l'industrie du chantier naval en Indonésie est plus avancée afin que rivaliser avec l'industrie de la construction du naval d'autres pays et peut stimuler l'économie en Indonésie ainsi que susceptible d'être suivie par l'industrie nationale afin d'augmenter le contenu local qui est utilisé dans la construction d'autres navires. À l'avenir, PT PAL Indonesia doit concurrencer avec d'autres pays. Le directeur de PT PAL Indonesia, M. Firmansyah Arifin, a déclaré « L'exportation initiale de navires de guerre a attiré l'attention de plusieurs délégués, y compris la région du Moyen-Orient, qui veulent commander un navire similaire. Plusieurs délégués des pays européens et du Moyen-Orient sont intéressés à commander le navire SSV. Selon Firmansyah, ce navire est non seulement pour les opérations militaires, mais aussi au-delà des opérations militaires. Il espère que le navire de guerre SSV peut améliorer l'image de l'Indonésie. Le chef d'état-major de la marine, l'amiral Ade Supandi, a déclaré qu'il donnerait le transfert de technologies opérationnelles de navires de guerre au gouvernement philippin. Selon lui, l'implication de la marine est nécessaire comme une forme de contrôle sur le processus de transfert de technologie. Le transfert des connaissances pour la marine philippine est une source naturelle parce qu'il est une forme d'apprentissage. La capacité de PT PAL Indonesia pour exporter le navire est le moment pour améliorer la qualité et la quantité de production des bateaux dans le pays. Selon Ade, un plus avantageux d'un point de vue économique, les exportations de bateaux montrent que l'Indonésie est en mesure de répondre aux besoins des navires dans le secteur de la défense dans le pays. Il a rappelé que l'industrie de la construction navale est également soutenue par l'industrie des composants adéquats, de sorte que l'Indonésie est plus indépendante pour répondre aux besoins du navire. En outre, il faut renforcer les relations avec le chantier naval d'autres pays parce que la coopération qui produit le transfert de la technologie est toujours nécessaire. Chers amis, c'était la mise au point de la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. L'Union européenne a lancé le mois d'Europe en Indonésie. Le lancement visait à commémorer la journée d'Europe le 9 mai, la journée unie des pays européens sous l'Union européenne. L'ambassadeur de l'Union européenne en Indonésie et à Brunei Darussalam, Vincent Guérant, lundi à Jakarta, a dit que tout au long de mai, l'Union européenne organisait une série de festivités pour ajouter les connaissances sur l'Europe et les activités de l'Union européenne en Indonésie. Selon lui, le mois d'Europe apportera les relations plus étroites entre les Européens et les Indonésiens à travers des activités culturelles.
This month of May and the various events we've been organizing are really designed to promote friendship.
La commémoration de ce mois de mai Nous efforçons de promouvoir l'amitié entre les Européens et les Indonésiens, de présenter l'histoire de l'Europe à travers la culture. Nous espérons que tous les éléments renforceront les liens d'amitié qui existent entre le public européen et indonésien, surtout la jeunesse. L'ambassadeur Vincent Gerard a expliqué qu'en plus des activités culturelles pour renforcer les relations entre les Européens et les Indonésiens, l'Union européenne va également lancer le Livre bleu 2016. Selon lui, le Livre bleu fournira des apports annuels sur la coopération du développement de l'Union européenne et de l'Indonésie, notamment dans les domaines de l'éducation, le développement de la société civile, la protection des droits de l'homme et le développement durable. L'Indonésie est devenue le premier pays dans le monde qui obtient le schéma de la licence d'application des réglementations forestières, la gouvernance et les essences commerciaux pour toutes les exportations des produits de bois de l'Indonésie vers 28 pays européens. Cette réalisation a été obtenue après avoir travaillé dur pendant 15 ans, de sorte que l'Indonésie est devenue finalement un pionnier de l'exportation de produits de bois légal à l'échelle internationale. L'acquisition de la licence de l'application de réglementation forestière, la gouvernance et les échanges commerciaux du secteur forestier de l'Union européenne se reflète dans la déclaration conjointe entre le président Joko Widodo et le président de l'Union européenne, Jean-Claude Juncker, à Bruxelles le 21 avril dernier. La ministre des Forêts et de l'Environnement, Mme Siti Nurbaya Bakar, dans un communiqué de presse, a déclaré lundi, les deux chefs d'État avaient convenu de commencer immédiatement le système d'échange de bois légal pour éradiquer l'exploitation forestière illégale dans le biais de cette licence. Elle a considéré qu'avec le premier schéma de la licence d'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux dans le monde, les produits de bois de l'Indonésie n'ont pas besoin de passer par le processus de diligence raisonnable, mais vont directement à travers la ligne verte des douanes des pays de destination. Le gouvernement de l'Indonésie et l'Algérie ont convenu de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans le domaine religieux. Le ministère indonésien des Affaires étrangères, dans le communiqué de presse, a déclaré lundi que l'accord a été conclu lors d'une réunion entre l'ambassadeur d'Indonésie pour l'Algérie, Safira Marusa, et le ministre algérien des Affaires religieuses et des Wakaf, Mohamed Aïssa, au bureau du ministère algérien des Affaires religieuses récemment. L'accord de renforcer la coopération religieuse sera immédiatement suivi par le lancement d'un certain nombre de programmes qui seront mis en œuvre dans un avenir proche. L'ambassadeur d'Indonésie, Safira Mahrusa, a proposé une collaboration sous la forme de l'échange de visites des ulémas pour contrer le radicalisme et le fondamentalisme dans les deux pays. Les chances de visite des ulémas sont proposées parce que l'Algérie et l'Indonésie ont des expériences similaires dans le traitement de la question du terrorisme. Vous écoutez le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta. La République d'Indonésie et la République populaire de Chine renforcent la coopération en matière d'échange d'informations afin d'empêcher la contrebande et la lutte contre le trafic de drogue et les matériaux dangerosité de la drogue. Le chef de l'Agence nationale des stupéfiants, M. Budi Waseso, a déclaré lundi que la coopération par le protocole d'accord pouvait éviter l'entrée d'autres types de médicaments en provenance de Chine. Selon Budi, l'intelligence chinoise continuera de donner des informations à l'Agence nationale des stupéfiants, ou BNN, au sujet de l'envoi de drogue à l'Indonésie. BNN espère le réseau de trafic de drogue vient de l'Indonésie vers la Chine peut être connu pour les deux parties. Le gouvernement indonésien et la Chine ont mené le deuxième sommet du dialogue économique à Jakarta. La délégation indonésienne, présidée par le ministre de la Coordination des Affaires économiques, M. Darmin Nasution. tandis que la délégation chinoise dirigée par le conseiller d'État de Chine, Yang Jieji. À cette occasion, Darmina Sution a dit que le gouvernement indonésien se concentrait sur les relations bilatérales à partir de l'investissement, la coopération de l'infrastructure jusqu'au commerce. Selon lui, au cours des deux dernières années, les statistiques de commerce entre les deux pays ont diminué. Ceci est également suivi par la tendance d'un creusement du déficit commercial en Indonésie. Il a proposé de formuler une analyse et les mesures vers un commerce plus équilibré et durable. Le gouvernement espère Nahdlatul Ulama participe en tant que pacificateur sur les différents conflits dans certains nombres de pays du Moyen-Orient et jusqu'à présent, c'est lui qui devient le pacificateur entre l'Israël et les Palestiniens selon les États-Unis. Le ministre coordinateur des Affaires politiques, Justice et Sécurité, M. Luhut Binsar Panjaitan, a dit à Jakarta lundi que l'Indonésie pouvait être un pacificateur des conflits internationaux. L'Indonésie doit prendre ce rôle stratégique. Le soutien des ulémas de Nahdlatul Ulama est très important pour l'ordre du jour. 10 membres du personnel de la police palestinienne participent à la formation dans le traitement de la criminalité dans le cyberespace ou cybercriminalité et la criminalistique numérique en Indonésie tenu du 9 au 18 mai 2016. Selon le communiqué de presse de l'ambassade d'Indonésie à Amman en Jordanie, a reçu à Jakarta mardi, la formation est organisée par la direction de la coopération technique du ministère des Affaires étrangères de l'Indonésie en coopération avec l'Institut national de l'éducation de la police indonésienne. La formation dans le traitement de la cybercriminalité et la criminalistique numérique vise à améliorer la capacité des agences de police palestiniennes dans le domaine de la prévention de la criminalité, dans le cyberespace et les méthodes d'enquête judiciaire numérique. Cette formation est la suite de la promesse du gouvernement indonésien aux Palestiniens dans le soutien et la préparation de la capacité des ressources humaines, notamment les responsables gouvernementaux. Le chef de l'Institut de l'éducation de la police de la République d'Indonésie, le commissaire général de la police Shafruddin, a déclaré que la police a effectué des coopérations à l'étranger avec les agences de police étrangères. La formation de renforcement des capacités pour la Palestine et les pays du Pacifique Sud fait partie de l'engagement du gouvernement indonésien de continuer à encourager la coopération de développement entre les pays en développement. Chers amis, c'était le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers juristes et auditeurs de la Voix de l'Indonésie, vous avez écouté tout à l'heure les informations de la Voix de l'Indonésie. Maintenant, c'est le tour de notre rubrique suivante, c'est le magazine de la culture. Et pour ce soir, on parle du sujet la gastronomie de Nusa Tenggara de l'Ouest.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Chers amis, la Voix de l'Indonésie dans quatre coins du monde, voici le magazine de la culture de la Voix de l'Indonésie. Pour ce soir, on va aller à la province de Nusa Tenggara de l'Ouest. Surtout ici, on parle du sujet la gastronomie de cette province. Alors, restez avec nous au RRI World Service, la Voix de l'Indonésie. Et vous pouvez écouter par notre émission par en courte sur la fréquence 9525 kHz ou bien avec Internet. Voici notre site Internet www.voi.co.id. Bon, chers auditeurs, allez écouter notre sujet, la culinaire de Nusa Tenggara de l'Ouest. Chers amis, pour ceux qui visitent Lombok en province de Nusa Tenggara de l'Ouest, essayez de prendre votre temps pour profiter d'une variété de spécialités culinaires locales qui sont tellement tentantes. Et vous savez, comme d'habitude, la gastronomie de Lombok ou bien Nusa Tenggara de l'Ouest est un peu piquante. Et pour ce soir, on vous présente le poulet de Taliwang. Le poulet de Taliwang est si populaire et vous devez essayer. Le poulet de Taliwang fait par le poulet brûlé avec des herbes, chéchés, piment rouge, l'oignon, l'ail, les tomates, les crevettes frites et des autres épices, le sucre de palme et le sel. Ce culinaire généralement consomme avec le menu varié de Lombok. L'un d'entre eux est la soupe de légumes lebu. Chers amis, pour faire la soupe de légumes de lebu, il faut lebu. Lebu, c'est-à-dire, est une sorte de grain qui ressemble le soja noir. Les ingrédients pour la soupe de lebu sont les épices de gingembre, le curcuma, le piment, les tomates, les oignons, l'ail et la pâte de crevette. Alors, comment faire de cette soupe? Bon, maintenant, tout d'abord, le soja noir bouilli jusqu'à devenir mou. Puis, les épices moudrées et poêlées après insérer les dans la graine de soja qui a été doux dans le casserole. Puis, ajoutez les légumes, tels que les feuilles de basilic, au goût de chicorée et ce que vous voulez. Tout est cuit jusqu'à ce que fait. Chers amis, lorsqu'on consomme cette soupe, c'est tellement frais et savoureux. En plus de délicieux, on dit que manger la soupe de lebu pourrait aussi stimuler l'endurance. En outre, le soja de noir contient des nutriments équilibrés qui est bon pour le corps. Outre la soupe de lebu, c'est aussi délicieux de manger le poulet taliwang avec la soupe de pedis chaud. Pedis signifie d'acide ou aigre dans la langue Sasak, tandis que le chaud, c'est-à-dire piquant. La soupe est plus sombre et rouge incliné en raison de l'utilisation de poivre rouge et la tomate. La soupe de pedis de chaleur utilise également le basilic qui se sent tout à fait rafraîchissant. La différence avec le légume lebu, la soupe de légumes chauds pedis contient des différents types de légumes tels que le courge, le maïs sucre, l'aubergine, le pois et les haricots, le basilic et le fougère. Et les chaleurs produisent très délicieux et manger avec du riz chaud. Chers fidèles amis, la soupe de légumes de lebu et pedis chaud étant le menu typique de Lombok sont faciles à trouver à Lombok. Le prix est 16 500 par portion pour la soupe de légumes de lebu ou bien plus de 10 euros. Tandis que pour le pedis chaud, c'est environ 19 000 ou bien moins de 2 euros. Et presque tous les restaurants traditionnels à Lombok servent également sa soupe de lebu et pedis chaud. Chers amis, c'était le magazine de Persona Indonesia ou magazine de la culture ayant le sujet le plat de Nusa Tenggara de l'Ouest. Merci de votre fidélité et attention. Au revoir. Chers auditeurs et auditeurs de la voix de l'Indonésie, comment la gastronomie d'Indonésie et pour mieux connaître l'Indonésie, allez visiter l'Indonésie. Mais pour faciliter de votre communication, n'oubliez pas apprendre la langue indonésienne. C'est facile la langue indonésienne. Bon, comment parle la langue indonésienne? Allez écouter notre rubrique suivante, c'est le magazine Apprendre la langue indonésienne.
Pour comprendre et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Allez apprendre l'indonésien.
Bonsoir, chers amis, retrouvons-nous une fois de plus dans votre émission Apprendre l'indonésien, un programme qui vous aide à découvrir des mots et des expressions indonésiennes et vous présente un dialogue permettant de les utiliser. Et notre sujet aujourd'hui est extracurriculaire, ou en français, activité périscolaire. Alors, suivez-moi. Comme d'habitude, je vais tout d'abord introduire le vocabulaire et les expressions liées au thème d'aujourd'hui. Je dirai chacun deux fois et vous devrez les répéter après moi. Extracurriculaire. Extracurriculaire. En français, périscolaire. Setiap Sabtu. Setiap Sabtu. En français, chaque samedi. Kegiatan. Kegiatan. En français, activité. Bola basket. Bola basket. En français, basketball. Bola volley. Bola volley. En français, volleyball. Bulu tangkis. Bulu tangkis. En français, badminton. Karate. Karate. En français, karaté. Drama. Drama. En français, théâtre. Tari tarian. Tari tarian. En français, danse. Semoga. Semoga. En français, souhaite. Pemain basket. Pemain basket. En français, joueur au basket. Handal. Handal. En français, fiable. Rajin berlatih. Rajin berlatih. En français, courageux pour s'entraîner. Tingkat nasional. Tingkat nasional. En français, niveau national. Chers amis, maintenant le vocabulaire et les expressions vont vous être donnés sous la forme d'une conversation entre Bob, A, et Adi, B. Je dirai chaque phrase deux fois lentement. A. Aku lihat kamu setiap Sabtu masuk sekolah. Aku lihat kamu setiap Sabtu masuk sekolah. En français, je vois que tu vas à l'école chaque samedi. B. Ya benar, Sabtu ada kegiatan ekstrakurikuler. Ya benar, Sabtu ada kegiatan ekstrakurikuler. En français, oui, tu as raison, il y a des activités périscolaires. A. Kegiatan apa saja? Kegiatan apa saja? En français, quelles activités? B. Ada bola basket, bola volley, bulu tangkis, karate, drama, dan tari-tarian. Ada bola basket, bola voli, bulu tangkis, karate, drama, dan tari-tarian. En français, il y a du basket, du volley, du badminton, du karaté, du théâtre et de la danse. A. Kamu pilih ekstrakuler yang mana? Kamu pilih ekstrakuler yang mana? En français, quelle activité extrascolaire tu as choisi? B. Bola basket. B. Bola basket. En français, le basket. A. Semoga kamu menjadi pemain bola basket yang handal. Semoga kamu menjadi pemain bola basket yang handal. A. Espérons que tu deviendras un basketteur fiable. B. Ya, aku harus rajin berlatih. Ya, aku harus rajin berlatih. En français, oui, je dois m'entraîner avec courage. A. Sudah pasti, semoga menjadi juara tingkat nasional. Sudah pasti, semoga menjadi juara tingkat nasional. En français, c'est certain que tu peux devenir un champion national. B. Terima kasih. Terima kasih. En français, merci. Chers amis, ainsi se termine votre programme Parlons Indonésien et nous espérons qu'il pourra être utile pour ceux d'entre vous qui veulent en savoir plus sur la langue indonésienne. Merci à tous et à bientôt.
Chers auditeurs et auditeurs de la voix de l'Indonésie, vous avez écouté tout à l'heure la rubrique La langue indonésienne. Maintenant, c'est le tour de la rubrique suivante, c'est magazine de musique.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis. Merci à écouter la voix d'Indonésie à Jakarta. Voici le magazine musical qui s'agit des musiques traditionnelles et pop de l'Indonésie. Vous pouvez écouter nos émissions sur les fréquences de 9525 kHz ou en streaming de www.voi.co.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour l'édition de ce soir, nous vous présentons une chanteuse pop, Nika Ardila. Pour ouvrir notre rencontre, voici la première chanson de Nika Ardila intitulée Étoile de vie. Bonne écoute.
Jalani.
Sérita, vous venez d'écouter la chanson de Nick Ardila intitulée « Étoile de vie » qui est une chanson du deuxième album. Cette chanson raconte l'échec de l'amour, mais il était sûr, un jour, le bonheur qui rêve viendra. Cette chanson est composée par Dedi Dorès. Les chansons chantées par Nick Ardila ont bien accepté par les amateurs de musique indonésienne. L'album Étoile de vie a été bien vendu, à savoir 2 millions de copies. Ce succès a conduit Nick de gagner le prix de BASF comme meilleure vente d'album en 1990 pour la chanson Étoile de vie. L'année précédente, le premier album de Nick, intitulé Un faisceau de lumière, vendu à plus de 500 000 copies. Bon, Sergitar, écoutons maintenant la chanson de Nick Ardila intitulée Un faisceau de lumière. Bonne écoute.
Dalam cinta.
Chers juristes auditeurs de la voix de l'Indonésie en terre, malheureusement, le temps ne permet plus de continuer ce programme. Et pour les équipes de ce soir, Kartika, Maisaro et Mama Suartono et le technicien, vous disons bonsoir, rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt, au revoir, sampai jumpa.
Radio République Indonésia, Service international, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, Service international, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voi Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.